Bienvenue dans le cinquième épisode du balado PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. La semaine passée, Jessica, infirmière en chef à la clinique Fertilis, nous rappelait que l'infertilité n'a pas de visage et qu'elle peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Mona Greenbaum, directrice générale à la Coalition des familles LGBT+. On parle des enjeux des futurs parents de la communauté LGBT. On sort de l'hétéronormativité, de la préservation de la fertilité des personnes trans. On parle politique et encore plus. On ouvre nos esprits et on se sensibilise pour une communauté plus inclusive et pour l'accès à la PMA pour tous. La Coalition des familles LGBT+ existe depuis 1998. Ils ont déjà lutté à plusieurs dossiers et sont toujours actifs dans l'espace public. Ils offrent des formations, des ateliers, de l'information et des outils pour les familles et les futurs parents de la communauté LGBT+. C'est une ressource inestimable pour le Québec, pour un Québec plus inclusif.
On travaille beaucoup, on a travaillé et puis on continue de travailler à faire avancer les lois pour les familles LGBT+. C'est sûr qu'on a beaucoup avancé les lois en 2002 pour les familles avec couple de même sexe, une réforme du code civil et puis on a changé l'accès à la parentalité aussi depuis 2002, on a accès aux cliniques de fertilité, on peut adopter des enfants aussi. Donc, le Québec est vraiment avancé en termes des droits pour les familles, particulièrement les familles avec couple de même sexe. On a une égalité juridique depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, c'est ça, on a quand même autour de 1700 familles, mais c'est sûr que la communauté des familles LGBT est beaucoup plus grande que ça. Et puis, notre travail principal actuellement et de former les professionnels qui travaillent avec les jeunes personnes LGBT ou les familles LGBT. L'autre chose qu'on fait, c'est on donne des services à nos membres. Donc, on aide nos membres à par exemple, fonder leur famille. On fait des ateliers pour les futurs parents. Donc, c'est ça, c'est grosso modo, ça, c'est ce qu'on fait comme organisme.
Parlons, Mona, de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée.
La procréation hors clinique, la procréation artisanalement assistée et la procréation amicalement assistée ont vivement suscité un intérêt et une curiosité à vouloir comprendre. Mona fut parfaite pour m'expliquer les concepts.
C'est ça. Donc, en fait, même dans le Code civil, on parle de procréation médicalement assistée, artisanalement assistée et amicalement assistée. Donc, majoritairement dans la communauté des femmes lesbiennes, il y a des choix à faire. Donc, si on veut procéder par insémination, oui, on peut aller dans une clinique avec une donneur. Quand on parle de procréation artisanalement assistée, ça veut dire qu'on demande à un ami ou une connaissance d'être le donneur de sperme. Donc, c'est un donneur connu, pas anonyme. Et cette personne va donner son sperme. Donc, c'est pas comme une don par sexuel, donc c'est pas amicalement assisté parce que ça c'est possible aussi qu'on couche avec le donneur pour le simple but de créer un enfant, donc ça c'est amicalement, mais artisanalement c'est que le donneur nous donne son sperme dans un petit contenant puis on l'injecte à la maison avec une seringue, donc pas très techno dans ça, c'est assez facile. Ça marche très bien pour beaucoup de personnes qui veulent avoir une donneur connue qui est disponible si l'enfant veut le rencontrer, ou ça peut être une personne même qui est impliquée dans la vie de l'enfant ou bien non, c'est comme les choix sont variés, mais ça marche très bien s'il n'y a pas des problèmes d'infertilité. Parce qu'en fait, pour la majorité des lesbiennes, on utilise ces cliniques pas parce qu'on a un problème d'infertilité, mais c'est simplement parce qu'il y a un manque de sperme.
Avant ma discussion avec Mona, j'associais la PMA qu'à la maladie de l'infertilité. Maintenant, je comprends que c'est au-delà de l'infertilité que l'accès à la PMA est nécessaire. et elle doit être accessible pour tous.
Donc, c'est ça que comme les gens vont, ont tendance, comme quand ils entendent de procréation médicalement assistée, ils vont parler tout de suite de la fécondation in vitro. Mais pour nous, c'est juste, on va en clinique et puis on fait des simples inséminations avec des dons de sperme. Donc, c'est pas nécessairement très techno pour nous. Pour beaucoup de femmes, c'est qu'elles veulent juste éviter les dépenses et puis la médicalisation derrière les cliniques de fertilité. Donc, en faisant un bébé à la maison avec l'aide d'un ami, un don de sperme, ça facilite tout ça. Aussi, c'est beaucoup plus facile de tomber enceinte avec un don de sperme frais en comparaison avec du sperme congelé, un échantillon qui était sous azote liquide. Donc, ça, on peut tomber enceinte plus rapidement. Mais il y a diverses raisons. Il y a certaines femmes qui veulent que, parce que dans les cliniques, mais comme tu sais, probablement, on peut choisir comme un donneur de sperme qui est complètement anonyme ou bien à identité ouverte. Donc, ce que ça veut dire, un donneur à identité ouverte, c'est que à l'âge de 18 ans, si l'enfant veut contacter le donneur, c'est possible. Donc, ça peut être un échange de lettres ou bien même une rencontre en personne. Mais c'est seulement quand l'enfant a l'âge de majorité, donc 18 ans. Mais avec un donneur connu à la maison, ça peut être tout de suite. Puis, dans certains cas, le donneur peut être même impliqué dans la vie de l'enfant. Donc, tout est possible. C'est sûr que le code civil dit, c'est que s'il n'y a pas eu une relation sexuelle entre le donneur et la mère, le donneur ne peut pas réclamer sa paternité. Donc, ça, c'est clair. Les femmes dans les couples lesbiennes sont protégées dans ça. Donc, il n'y a pas comme s'il y a un projet parental entre deux femmes et puis elle demande à un ami d'être le donneur de sperme. Cet ami homme ne peut pas comme... Après la naissance, l'enfant dit « Moi, je veux être reconnu comme papa ». Ça, ça n'existe pas au Québec parce qu'on a une code civile qui reconnaît l'idée d'un projet parental. Mais s'il y a eu une relation sexuelle entre le donneur et la mère, le donneur a jusqu'à un an après la naissance de l'enfant pour réclamer sa paternité. Après un an, s'il l'a pas fait, il peut plus le faire. Donc, c'est impossible. Donc, certaines familles, le donneur va être juste un donneur. Dans d'autres familles, cette personne va jouer le rôle d'un adulte qui est présent dans la vie de l'enfant ou accessible si jamais l'enfant veut le rencontrer. Parfois, c'est comme un oncle. Parfois, c'est une personne qui joue un rôle parental. Donc, ça, c'est possible. Tout est possible. Mais légalement parlant, au Québec, on peut avoir juste deux parents qui sont légalement reconnus.
Choisir entre un donneur connu ou inconnu et définir l'option de procréation qui nous convient doit soulever de grandes réflexions. Je me suis questionnée sur l'implication de ce donneur dans les couples ou encore de cette donneuse parce que en effet, il peut y avoir des dons d'ovules ou encore des gestatrices ou mères porteuses comme qu'on appelle. Un concept m'est venu qui est celui de la pluriparentalité. Mona nous explique donc ce concept qui était tout nouveau pour moi, la pluriparentalité.
Quand on parle de la pluriparentalité, c'est plutôt quand il y a plus que deux personnes qui s'impliquent dans la vie de l'enfant comme parents, vraiment à la quotidienne. Donc ça c'est possible. Et puis donc, légalement, c'est impossible au Québec. C'est possible dans d'autres provinces canadiennes. Par exemple, en Ontario, on peut avoir sur l'acte de naissance d'un enfant jusqu'à 4 parents qui ont tous les droits et toutes les responsabilités. En Colombie-Britannique, on peut avoir 3 parents. En Saskatchewan, on peut avoir 3 parents. Il y a d'autres provinces aussi. Mais au Québec, on est toujours dans le modèle de 2 parents. C'est possible que ça va changer à un moment, mais pour le moment, légalement parlant, c'est seulement un ou deux parents. Mais socialement, il peut y avoir des ententes, pas légales, mais des ententes morales et éthiques entre les personnes qui décident, OK, on veut être 3 ou on veut être 4 parents. Et c'est faisable. Donc, ça, c'est de la pluriparentalité. Donc, je pense que la pluriparentalité, c'est quelque chose qu'on peut-être explorer au Québec comme on a fait dans d'autres provinces canadiennes.
Intéressant de se rendre compte que la politique, qu'elle soit municipale, provinciale ou fédérale, peut avoir une influence assez importante dans notre vie privée. Justement, on en parle de la politique. Vous vous souvenez de la loi 20 en 2015?
Lors de la réforme de la loi 20 qui a eu lieu en 2015 par le gouvernement libéral, je me demandais, parce que nous, en tant que couple hétéro, on a été vraiment frappés de plein fouet par les coupures et la réforme. Quels ont été les impacts pour les couples LGBT?
Mais je crois que comme on n'était pas discriminé en tant que personne LGBT, mais c'est sûr que dans notre communauté, il y a comme beaucoup, proportionnellement, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent la procréation assistée parce que on a besoin pour fonder notre famille. Donc c'est sûr qu'on était on a été très touchés par la loi 20. C'était horrible pour beaucoup de nos membres parce que vraiment, même s'il y a des crédits d'impôt et puis il y a certaines choses qui sont couvertes, mais à la fin, la majorité des choses sont pas couvertes. Et puis, ça s'applique aux inséminations aussi parce que la majorité des femmes lesbiennes qui entrent dans une clinique de fertilité sont pas infertile nécessairement, c'est juste un manque de sperme. Mais la sperme coûte cher et puis les inséminations, oui, l'acte d'insémination est maintenant couvert pour 9 cycles. Donc, l'injection de sperme dans l'utérus est couvert. Mais ce qui est très dispendieux pour nous, c'est les échantillons de sperme qui peut coûter 1 000 à 1 200 $ par mois. Et puis ça, c'était couvert avant 2015, mais c'est plus couvert. Donc, même quand il y a pas de problème d'infertilité, il y a quand même eu un très grand impact quand le programme était annulé. Et puis, comme pour tout le monde, quand il y a un problème d'infertilité, puis on doit aller vers la fécondation in vitro, c'est quasiment impossible. Puis quand j'ai présenté à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce projet de loi. Donc, j'ai rencontré Barrette, j'ai présenté à Barrette et puis d'autres députés et ministres. Et puis, j'ai souligné le fait que les crédits d'impôt n'étaient pas très aidants pour les couples parce que c'était fait comme avec l'idée d'une échelle. Donc, les gens qui gagnaient plus que 120 000 par année comme revenu familial avaient un remboursement de 20%. Donc, supposons que le frais annuel était 20 000. Donc là, ils vont avoir un remboursement de 20% de ça, donc 4 000 en fait. Qui est, pour une couple qui a plus que 120 par année, ça va représenter pour eux autres peut-être un voyage parce qu'ils n'ont pas vraiment, le 4 000 ne va pas faire une grande différence dans leur vie. Pour les couples très pauvres qui ont un revenu familial moins que 50 000, donc eux autres, ils vont recevoir un remboursement de 80 %. Donc, supposons dans une 20 000, ils vont avoir 16 000 qui est couvert, ce qui peut sembler bien, mais le 4 000 n'est pas accessible pour une couple qui gagne seulement revenu total de 50 000. Donc, pas utile non plus. Puis, pour le couple moyen au Québec, le revenu familial, c'est autour de 70 000 par famille, revenu familial. C'est pas beaucoup. Donc, c'est devenu comme quelque chose qui est pas possible pour la grande majorité des familles, des futurs parents au Québec. C'est devenu trop dispendieux. Vraiment, ça nous fait manquer l'accès totalement.
C'est vraiment des bâtons dans les roues.
Mona le dit si bien, on passe vraiment à côté d'une valeur auquel le Québec s'attache, la famille. En 2015, austérité, gouvernement Couillard et ministre Barrette. Tout un mélange qui a encore des répercussions aujourd'hui sur notre Québec.
Oui, oui. Mais c'est sûr, comme quand tu as dit au début que c'est pas un droit, je suis d'accord que c'est pas un droit, mais en même temps, on vit dans une société qui supposément valorise la famille. Okay. Et puis... Donc, je trouve que c'est très contradictoire qu'on a enlevé cet accès à beaucoup, beaucoup de personnes, particulièrement avec une population qui va de plus en plus bas. Donc, c'est sûr que le gouvernement actuel a l'intention de remettre ce programme en place. Pas nécessairement de la même façon exactement. Ça va pas être aussi bien qu'avant, je pense. Mm-hmm. Mais parce qu'il y a des considérations financières dans tout ça. Mais quand même, l'intention est là. Mais quand on vit en Gaspésie ou quand on vit dans Bas-Saint-Laurent, c'est tellement un défi énorme. Mm. Comme tu dis, des journées de travail manquées, des journées de maladie. Mais quand on va à Montréal pour comme un traitement médical, c'est pas juste un jour, il faut prendre 2 ou 3 jours. Et puis les dépenses derrière tout ça, le stress qui aide pas à la conception. Donc tout ça, c'est comme, ça rend ça comme trop énorme comme défi. Et puis, comme tu as bien dit, on ne sait pas à la fin si ça va marcher. Si on savait au moins qu'après tout ça, c'est certain qu'on va avoir un bébé, c'est une chose, mais ça peut finir en absolument rien. Et puis, juste une grande dette et qui va traîner pour des décennies.
C'est vrai, quand on se lance dans l'aventure de la procréation assistée, on ne sait pas comment ça va finir, surtout s'il y a un problème d'infertilité. Certaines personnes font appel à une gestatrice, un nouveau terme que mon âme a appris. Mais qu'est-ce que...
Oui, donc la gestation pour autrui. Alors, j'aimerais en apprendre davantage. C'est sûr que en lisant un petit peu, j'ai pu comprendre que la gestation était peut-être utilisée d'emblée pour les papas, donc les hommes gays qui voulaient devenir parents. Ça pouvait être une des options qui leur était possible.
Oui, c'est ça. Mais en fait, le GPA, c'est pas juste pour la communauté gay. C'est comme beaucoup plus utilisé par les couples hétéros. Okay. Quand il y a un problème d'infertilité, comme que dans un couple hétéro, quand la femme ne peut pas porter une grossesse. Donc ça, c'est une option. Et parfois, dans un couple hétéro, on va prendre l'ovule de la femme, le sperme de son conjoint, on va faire un embryon et ça va être implanté dans l'utérus d'un autre personne. Et puis la personne va être la gestatrice. Pour les couples gays, oui, ça c'est une des options. C'est sûr que probablement une plus grande portion des hommes gays vont adopter des enfants dans les centres jeunesse ici au Québec, mais il y a certaines qui veulent avoir un enfant biologiquement lié, mm-hmm. et puis donc ils vont aller avec la gestation pour autrui, le GPA. Le problème ici au Québec, c'est que il n'y a pas un encadrement légal pour le GPA. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, c'est complètement légal, mais il n'y a pas cet encadrement qui est en place, ce qui rend la chose un peu plus difficile. Au Canada, dans toutes les autres provinces canadiennes, il y a un encadrement légal pour le GPA. C'est une chose que je sais que les 4 partis politiques actuels au Québec ont l'intention, veulent mettre quelque chose, un encadrement légal en place pour le GPA. C'est que beaucoup de nos membres, et puis j'imagine que ça doit être la même chose pour les couples hétéros, mais ils vont faire affaire avec les agences de GPA en Ontario. Parce que là, c'est bien balisé et puis c'est vraiment comme ça existe comme pratique très solide.
Dans l'espace public, mère porteuse. Mais j'entendais, Mona, que c'était pas nécessairement l'appellation qu'on veut donner à un mère porteuse. Qu'est-ce qu'on devrait dire à la place?
Oui, mais nous, on trouve que c'est vraiment un mauvais terme et oui, j'essaie vraiment d'éviter d'utiliser le terme par respect à tout le monde qui est impliqué dans le processus parce que d'abord, les gestatrices se considèrent pas elles-mêmes comme les mères. Souvent, ces personnes ont déjà une famille, ont déjà des enfants, puis elles savent qu'est-ce que c'est d'être une mère. Mais quand elles portent un enfant pour autrui, elles considèrent pas cette action comme une action parentale, ok? Donc, quand on dit à cette personne, tu es une mère porteuse, c'est comme si on impose un rôle qui n'est pas approprié par cette personne. Puis, la recherche nous montre que la grande majorité des personnes, 99,9% de ces personnes, veulent pas garder l'enfant, ont aucune intention de garder l'enfant, veulent faire ça souvent comme un acte altruiste pour aider une couple ou bien parce que ces femmes-là ont beaucoup aimé l'expérience d'être enceinte puis veulent le répéter sans avoir un autre enfant. Donc, il y a diverses raisons pour qu'une personne devienne une gestatrice, mais c'est pas pour être parent. Donc, c'est ça. Le langage qu'on utilise est très important. Et pour les familles homoparentales, à un moment, on appelait, comme on disait, la mère et la conjointe de la mère. Mais en fait, c'est deux femmes qui sont les parents de cet enfant-là, c'est deux mères. Donc, c'est un peu comme même insultant d'appeler comme une mère, comme la conjointe de la mère, comme, okay. Tu sais, comme, c'est un focus sur la biologie qui n'est pas mérité.
Donc, avec de mauvaises appellations, on peut vraiment fausser la compréhension des rôles et de l'implication parentale.
Exactement.
Parce que les mots peuvent blesser et que les mots renferment bien des concepts. Mais on a parlé de la gestatrice. Est-ce qu'il y a un manque de gestatrice au Québec?
Je pense pas qu'il y a un manque de femmes porteuses, mais je sais que dans notre groupe, je rencontre beaucoup d'hommes gays qui ont l'intention de fonder leur famille avec une gestatrice. Et puis, c'est un processus, ça va prendre des mois. C'est la femme qui choisit le couple.
Okay.
Donc, parfois, on doit attendre qu'on ait choisi. C'est pas tout de suite. Mais à la fin, les personnes réussissent.
Donc, au Québec, il manque vraiment un encadrement sécuritaire et pour les parents d'intention et pour la gestatrice.
Mais c'est ça exactement. Donc, s'il y a une pénurie au Québec, c'est une fausse pénurie. C'est pas qu'il n'y a pas des personnes qui veulent porter des enfants pour autrui. C'est parce que les lois rendent ça difficile au Québec ou la manque des lois rend ça difficile au Québec. Donc, mais moi, comme nous, comme organisme, on fait des ateliers pour les futurs parents. Et puis, oui, il y a certains qui vont passer par des pages Facebook, mais en général, on suggère que les gens passent par des agences. Mais on a besoin de plus d'aide. Ça, c'est pour moi certain, parce que oui, c'est pas un droit, mais on valorise les familles ici au Québec. Et puis, si c'est vrai qu'on valorise vraiment les familles, donc on doit aider les personnes qui veulent fonder une famille, que ce soit des personnes célibataires, des couples, que ce soit des personnes hétéro ou LGBT, ou whatever, mais si on valorise les familles, on doit aider.
La valeur de la famille portée par le Québec résonne-t-elle pour toutes les personnes, incluant les personnes trans? Sont-ils discriminés? Quels sont les enjeux pour accéder à leur projet parental?
Premièrement, je dois dire qu'il y a une autre valeur dans ça, c'est que en 2015, on a mis dans notre charte des droits et libertés du Québec qu'on peut pas discriminer en termes de l'identité ou l'expression de genre. Donc, avec ça, c'est sûr que les questions de parentalité viennent avec. Et puis, mais la même chose, c'est comme, pour moi, c'est comme si je vois l'histoire qui se répète. Et je suis militante depuis 25 ans, puis j'ai beaucoup lutté pour faire avancer les droits pour les familles homoparentales en 2002. Puis je me souviens, en 2002, on a dit, oh, les familles homoparentales, on sait pas si ça va être dans l'intérêt de l'enfant, comme qui montrait que ses parents avaient la même capacité parentale, et puis que les enfants développaient aussi bien que les autres enfants. Puis c'est la même chose pour les personnes trans. Il y a beaucoup de recherches de plus en plus qui montrent la même chose. Il n'y a aucune raison à croire que ces personnes ne vont pas être des bons parents, que les enfants ne vont pas aller bien. Donc, on doit accorder les mêmes droits pour ces personnes aussi. Donc, ça, c'était ma préambule. Donc là, retournant à la loi 20 d'antan, une des choses que j'ai lues dans le projet de loi avant que je suis allée à l'Assemblée nationale, c'était que le gouvernement avait l'intention de couvrir la préservation du sperme ou des ovules des personnes qui vont suivre des traitements de chimiothérapie, ce qui est le cas actuellement dans la loi. Donc, si tu vas suivre la chimiothérapie, c'est très possible que tu vas devenir stérile. Donc, le gouvernement, avec nos cartes d'assurance maladie, couvre les frais de conservation du sperme ou des ovules, ce qui est bien. Oui. Mais ce que j'ai argumenté quand j'étais devant Barrette, c'était que les personnes trans suivent aussi des traitements médicaux parce que c'est pas comme quelque chose d'esthétique, là. Les personnes trans ont besoin de prendre des hormones et puis de faire des chirurgies parfois aussi pour que leur look et puis leur corps arrive avec l'identité de gens qui est vraiment ressenti. Donc, j'ai dit, ça, c'est aussi comme un traitement médical qui va rendre ces personnes stériles. Et puis, Barrette m'a dit, puis j'ai le transcrit de notre conversation, il m'a dit, on n'a aucune intention à discriminer contre les personnes trans. Donc, les services de la préservation de la fertilité vont être couverts pour ces personnes aussi. Mais là, malheureusement, pour raison X, Y, Z, quand les règlements ont sorti après l'adoption de la loi, on parlait uniquement des personnes qui vont suivre les traitements de chimio et on a complètement oublié ou écarté les personnes trans. Donc, nous, ce qu'on a fait, mais j'ai essayé de contacter Barrette plusieurs fois sans réponse. C'est clairement une discrimination. C'est un traitement différentiel entre les personnes qui suivent des traitements de chimiothérapie versus des personnes qui suivent des traitements pour aligner leur corps à leur identité de genre. Et j'ai rencontré Barrette récemment. Maintenant, il n'est plus le ministre, il est juste le petit député de Lapinière. Et puis, il a dit, oui, on va le faire, on va le faire. Mais aucun changement. Donc, c'est vraiment manque de respect. Et puis, j'espère un jour que Barrette va écouter ce balado. J'ai une grande déception à ça parce que il m'a dit publiquement, tout le monde a accès au transcrit, qu'on va pas discriminer. Et puis, la discrimination, les personnes trans sont les plus discriminées ou parmi les plus discriminées dans notre société. Puis, c'est vraiment dommage. Anyways, c'est ça. Donc, la congélation du sperme, ça coûte quelques centaines de dollars par année, mais la congélation des ovules, ça coûte beaucoup plus cher et c'est pas couvert.
Tout à fait. Puis, tu sais, on mentionnait tantôt justement les capacités à être parent. Je crois vraiment que ça se détache de notre orientation sexuelle ou de notre identité de genre, être un parent. Ça vient du cœur. Un couple lesbienne, un couple gay, des personnes trans, ça leur enlève tellement rien à leur capacité parentale puis à cet amour qu'ils peuvent donner et aux valeurs aussi. Je pense que c'est des personnes aussi qui ont été confrontées à différents préjugés. T'sais, devenir aussi des parents, ça se fait pas nécessairement de la même façon, de la même facilité qu'un couple hétérosexuel n'ayant pas de problème de fertilité. Donc, c'est vraiment un choix qui est réfléchi, qui est pensé, qui vient du cœur. Donc, je trouve ça me peine d'entendre toute cette discrimination-là qu'il peut avoir qu'on fait pas la part des choses entre les capacités parentales puis notre orientation sexuelle ou identité de genre.
Mais merci de dire ça, et puis évidemment, je suis complètement d'accord. Et puis, on sait que comme c'est pas notre orientation sexuelle ou notre identité de genre qui détermine si on est un bon parent ou non. C'est comme ça affecte pas notre capacité parentale, notre capacité de donner de l'amour à un enfant et puis de passer des bonnes valeurs comme tu t'as si bien exprimé. Puis, je dois dire que comme d'avoir un parent qui, malgré les préjugés, malgré les obstacles, malgré tout, réussissent à avoir comme une bonne vie, réussissent à faire des choses dans notre société, c'est comme, pour moi, c'est un modèle incroyable parce que c'est pas comme donner sur une assiette là d'être une parent trans ou comme même dans le temps d'être, mais maintenant c'est beaucoup plus facile pour les gays et les lesbiennes. Mais vraiment, comme pour moi, c'est un modelage d'une personne qui est capable de surmonter des défis, qui est capable de comme d'être lui-même ou elle-même comme sans égard ou préjugé. Moi, je trouve que c'est incroyable. C'est comme on peut transmettre une force.
C'est tellement inspirant. Être parent, aimer inconditionnellement, au-delà des préjugés, du regard des autres. Parce que c'est vrai, au Québec, il y en a encore de la discrimination, des préjugés puis de l'exclusion.
Ça nous amène à conclure, Mona, sur, en fait, la fertilité humaine, là. De façon très, très générale et indépendamment du genre, on sait qu'elle augmente. Plusieurs hypothèses tentent à pointer la pollution, les impacts de l'environnement, les perturbateurs endocriniens, les pesticides. Enfin, notre environnement a un impact sur notre santé globale, mais aussi sur notre santé reproductive. Quel est l'avis de la coalition sur la fertilité de la population?
On a déjà comme publié des mémoires à ce sujet-là, où on a comme inclus ces considérations. Et puis, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas assez de recherche sur ce qu'on doit regarder, comme tu dis, aller aux sources. C'est quoi qui cause cette infertilité qui est en augmentation? Moi, j'aimerais aussi avoir la recherche sur ces traitements que les personnes subissent dans les cliniques de fertilité. Parce qu'on ne sait pas comme les impacts à court, moyen, à long terme sur les personnes qui subissent les traitements, aussi sur leurs enfants.
Moi, je me rappelle très personnellement quand on m'a présenté le bilan un peu des impacts, des conséquences possibles qu'il pourrait y avoir sur mon corps, sur mon système. Je les ai regardés, mais tellement d'un œil presque fermé parce que notre objectif, c'était notre famille. C'est ce qui primait. Donc, on a balayé un peu les conséquences possibles, mais en effet, il y en a. Toutes les hormones, autant chez l'homme que chez la femme, là, c'est tout un cocktail des fois qu'on peut prendre et puis qui peut se répéter s'il y a échec.
On entre dans ça avec l'objectif de faire un bébé. Puis moi, j'ai travaillé avec des milliers de futurs parents. Et puis, je sais qu'il y a un focus là. Et puis, on veut pas avoir d'autres informations. On veut juste procéder. Et puis, les médecins ont une tendance à faire des suggestions médicales. C'est un peu normal. Et que il y a toujours une solution médicale. Donc, dans certains cas que j'ai vus, on va de plus en plus vers des technologies qui sont pas... Le taux de réussite n'est pas très élevé. Et puis, je pense que ça, c'est un peu comme un côté qui est caché dans tout ça. C'est qu'à un moment, il faut que ces personnes vont dire, OK, ça, les chances de réussite versus les impacts et puis le risque potentiel, on doit mettre tout ça dans la balance. Pour voir est-ce que ça fait de sens ou non. Mais moi, je suggère toujours aux parents de faire un plan, d'avoir un plan où il y a un début, mais qu'il y a aussi une fin. Puis qu'on dit à un moment que là, il faut arrêter. Mais c'est pas pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres options aussi pour fonder une famille. Moi, je connais une tonne de familles où il y a des enfants adoptés. Et puis, c'est des familles absolument fabuleuses. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Et puis, moi, j'ai entendu des histoires tragiques où les personnes vont mettre comme des années. Et puis, comme, pour toi, Roxane, tu as un bébé, mais il y a des personnes qui vont pas finir en ayant un bébé, mais qui vont finir très brisées psychologiquement, financièrement.
Je pense que les deuils sont énormes quand on doit se résilier à ce désir de devenir parent, puis de faire « OK, elle est où la limite? » C'est vraiment, je pense, de belles résiliences que les personnes, individuellement, mais aussi en couple, développent.
Mais non, oui, ça met beaucoup de stress sur les couples. énormément. Moi, j'ai vu des couples qui ont eu des ruptures à cause de ça.
C'est pas banal, puis on doit davantage en parler... comme bien d'autres aspects aussi.
Oui. Donc, tu as beaucoup de sujets à couvrir. Merci énormément de nous avoir donné l'opportunité aussi que je peux représenter la coalition, parler un peu de nos défis. C'est très apprécié.
Ça fait énormément plaisir. Puis je nous souhaite une société ouverte, en action, avec ses valeurs familiales et inclusives.
Et merci. Et puis, on va tous souhaiter qu'on remette le programme de progression assistée en place.
Oui, pour tous. Merci beaucoup, Mona.
Merci aussi. Bonne journée.
Bonne journée.
J'ai vraiment adoré apprendre avec Mona Grimbaum, ouvrir mes horizons et comprendre davantage les enjeux sur la communauté LGBT+ et la procréation assistée. La semaine prochaine, on reçoit Dave et on parle infertilité masculine. Je dédie cet épisode à ma sœur, qui sera une maman extraordinaire si tel est son projet. Sache qu'on va être derrière toi. Je t'aime. Une réalisation 100% bénévole initiée par La Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.